Говорит Москва.
Bonjour à tous, chers amis. Eh bien, nous nous retrouvons pour ce qui est le dernier épisode de notre mini-série sur Poutine. Et cet épisode, toujours intitulé par une question, Poutine veut-il nous faire la guerre? Alors, pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas le temps, qui sont trop occupés à manger leur triple burger frites mayo devant Netflix, eh bien, la réponse est non. Pour ceux, en revanche, qui sont intelligents et qui font dans la nuance, ou alors qui aspirent à le devenir intelligents, eh bien, pour ces personnes, évidemment, nous allons analyser les choses un peu plus en profondeur. Et donc, je vous retrouve tout de suite. Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, il faut d'abord essayer de comprendre et d'analyser un peu en profondeur la relation particulière de la Russie et de la guerre. La Russie a une relation particulière avec la guerre. Il faut savoir que au cours du XXe siècle, la Russie a connu trois guerres, soit en tant que Russie, soit en tant que Union soviétique, hein, comme en tant que territoire principal de l'Union soviétique, puisque la Russie, je crois de mémoire, c'était 85% de tout le territoire soviétique, eh bien, la Russie a connu trois guerres. On peut aussi parler de la guerre en Afghanistan, mais bon, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la Russie a connu trois guerres, dont la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui n'a commencé, contrairement à l'Europe occidentale, qui n'a commencé qu'en 1941, qui a duré 4 ans, mais qui a laissé un traumatisme très important dont il nous faut parler. C'est un traumatisme important parce que il vous faut savoir, pour ceux qui ne sont jamais venus en Russie ou qui ne connaissent pas la Russie, il vous faut comprendre qu'en Russie, il n'y a pas un jour sans qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle en Russie la Grande Guerre patriotique. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de cette Seconde Guerre mondiale. On en parle, on vous parle de la Seconde Guerre mondiale tout le temps, encore aujourd'hui, avec des commémorations, avec le cinéma soviétique et russe. Regorge de films sur la Seconde Guerre mondiale. Il fut un temps où je regardais de temps en temps une chaîne d'histoire à la télévision chez moi. C'est 70% au moins de, et encore je suis prudent et modeste. 70%, ça parlait de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est vraiment très présent et qui a laissé un traumatisme très important. Ce traumatisme, il est vrai, entretenu par de l'instrumentalisation et par une forme aussi de victimisation, c'est indéniable. Je dis, on va pas se le cacher. Alors je sais que ça va pas faire plaisir à certains Russes que je dise ça, mais de toute façon, le podcast n'est pas fait pour faire plaisir à qui que ce soit. Hein. Il est fait pour essayer d'analyser les choses et de les comprendre. Après, évidemment, je m'aperçois que le cercle des gens à qui je peux le faire écouter se restreint parce que, évidemment, les pro-russes considèrent que je suis anti-russe et les anti-russes considèrent que je suis pro-russe. Donc ça devient assez compliqué. Mais oui, il y a quand même une forme d'instrumentalisation, en tout cas d'exploitation politique, y compris aujourd'hui, de la Seconde Guerre mondiale. Je ne porte pas de jugement par rapport à ça. Moi, je considère un fait. Voilà, c'est comme ça. La Seconde Guerre mondiale en Russie aurait fait 27 millions de morts. Je dis aurait parce qu'il faut toujours être prudent avec le nombre de morts dans une guerre. C'est un sujet extrêmement sensible. Donc il faut être prudent. Mais cela aurait fait à peu près 27 millions de morts. Ce sont les derniers chiffres. Alors, l'histoire de la Russie au XXe siècle a connu d'autres épisodes extrêmement douloureux, ayant fait là aussi énormément de victimes, énormément de morts. Mais la Russie préfère passer ces moments d'histoire. Je pense notamment aux répressions staliniennes qui ont été aussi la cause de très très nombreuses victimes. C'est quasiment inchiffrable, hein. Mais là-dessus, les Russes sont beaucoup plus discrets, alors que bien sûr, ils parlent beaucoup plus volontiers des morts de la Seconde Guerre mondiale. Alors, comme dans tous les pays, la Russie ne fait pas exception. Il y a un roman national qui s'est créé autour de la Seconde Guerre mondiale, dont les Soviétiques et par voie de conséquence la Russie sont sortis victorieux. Bon, c'est, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil, hein, comme dirait l'Ecclésiaste. C'est-à-dire que voilà, il y a chaque pays a un récit épique dont une partie est plus ou moins romancée, c'est parfaitement normal. Mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, à plus forte raison, parce qu'il y a des soldats sur le front, et un nombre trop important d'entre eux ne reviendra pas. Et donc pour les Russes, ça c'est quelque chose d'hyper traumatisant. Un moment très traumatisant également pour les Russes, c'est lorsque la durée de l'opération militaire spéciale a excédé la durée de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait très très mal aux Russes. C'est donc aujourd'hui, les Russes veulent que cette guerre s'arrête et ils le désirent ardemment. Ils le désirent beaucoup plus que les gens sur les plateaux des chaînes d'information françaises que j'aimerais bien voir sur le front. C'est facile, hein, de pousser à la guerre depuis un studio parisien. C'est inqualifiable comme attitude. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir des Bernard-Henri Lévy dans les tranchées. Voilà. Et si possible qu'ils y restent. Voilà. Donc, ce sont des choses vraiment qui, pour les Russes, la guerre a été quelque chose de beaucoup plus traumatisant que pour nous, ouest-européens, en tout cas que pour nous, français ou suisses, ou pour les francophones d'Europe. Hein, ça a été quelque chose, la Belgique a quand même payé un lourd tribut, mais ça a été quelque chose, voilà, de très difficile que les Russes ne veulent pas voir se répéter. Et ça, il faut bien le comprendre, et il faut le comprendre dans un contexte où Poutine a fait tout ce qu'il a pu ou pensé pouvoir faire pour trouver une autre solution d'entrer en... Moi, je pense que d'entrer en Ukraine. Moi, je pense que Poutine a essayé jusqu'au bout de trouver des alternatives. Le problème, c'est qu'il y a eu une intransigeance absolue de l'OTAN en matière d'expansion. C'est-à-dire que l'OTAN ne veut pas s'arrêter. Il considère que, ayant gagné la guerre froide, eh bien, il considère qu'ils doivent pouvoir s'étendre où ils le veulent et comme ils le veulent. Et la Russie veut une zone d'influence. Alors, la Russie a cédé sur beaucoup de points déjà, hein. Rappelez-vous, lorsque s'est négociée la réunification allemande, c'est-à-dire la fin de la RDA et donc la fin de l'influence soviétique en Allemagne, eh bien, les Soviétiques à l'époque avaient dit oui, d'accord, mais cela ne peut pas se faire avec une Allemagne réunifiée, membre de l'OTAN. Bon, finalement, là-dessus, les Russes ont cédé. Les Russes ont également cédé sur l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est. Des Américains, dont un certain Joe Biden avait dit, attention, si les pays baltes entrent dans l'OTAN, les Russes pourraient vouloir nous faire la guerre. Donc, il y a quand même côté occidental et côté américain en particulier, il y a quand même une provocation, une sorte de pousse au crime aujourd'hui, qui fait que si les Russes sont entrés en Ukraine et si les Russes se sont engagés dans l'opération militaire spéciale, eh bien, c'est quand même qu'on les a passablement provoqués. Parce qu'à un moment donné, ben voilà, les Russes ont dû aussi poser des limites. Mais je suis certain que les Russes auraient aimé poser des limites raisonnables face à un interlocuteur raisonnable. Or, pour les Russes, l'idée de voir l'Ukraine dans l'OTAN n'est pas raisonnable. Il n'en reste pas moins que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme également parce que les Russes sont confrontés à une situation où la guerre en Ukraine, c'est des fratries qui se retrouvent séparées, qui se retrouvent dans les deux armées. J'ai rencontré par exemple quelqu'un qui servait dans l'armée russe et dont le frère servait dans l'armée ukrainienne. Parce que ce sont des gens très proches. Il y en a même qui parlent d'une forme de guerre civile. Par conséquent, ce sont des éléments, des épisodes extrêmement traumatisants et qui laisseront des traces durables, à mon avis, qui vont durer des siècles dans la relation entre les Russes et leurs voisins ouest européens. Il faut bien le comprendre, ça, parce que je pense que les Américains, les Anglo-Saxons, ne sont pas fâchés de dégrader de manière durable et profonde la relation entre l'Ouest et l'Est du continent, c'est-à-dire, en clair, entre l'Ouest du continent et les Russes. Hein? Donc, je crois que là-dessus, malheureusement, on est arrivé à quelque chose de. Alors, c'est jamais irréversible, hein, mais en tout cas, d'une défiance ou d'une méfiance durable. Et ça, c'est quelque chose de très, très dommageable, et pas simplement sur le prix de l'essence aujourd'hui, hein. C'est quelque chose de très, très dommageable pour nous autres, francophones. Alors, maintenant, il y a la question territoriale, c'est-à-dire est-ce que les Russes veulent étendre le territoire de la Fédération de Russie à l'Europe de l'Ouest? Bon, il faut déjà comprendre une chose, c'est que la Russie, du territoire, elle en a. Elle est même le pays qui a le plus grand territoire au monde, un territoire qu'elle n'arrive pas à habiter pour plein de raisons. Vous avez une densité de population extrêmement faible en Russie. Je ne vous apprends rien. Et ça, c'est dû à de nombreuses raisons, des raisons climatiques, des raisons de toute une série de raisons démographiques, toute une série de difficultés. Donc, vouloir feindre de croire aujourd'hui que les Russes veulent étendre leur territoire vers l'ouest, me paraît totalement déraisonnable, démagogique et dénué de tout bon sens. Les Russes n'ont pas vocation à envahir Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, moi, je m'en fous, je parle russe, hein, le cas échéant, je trouverai peut-être une petite place dans l'administration. Non, je plaisante, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut être quand même raisonnable. C'est pas ce que veulent les Russes. Alors, certains vont me répondre, oui, mais les Russes, en Ukraine, y a bien quand même une question territoriale. Oui, il y a une question territoriale parce que il y a des russophones qui ont été extrêmement maltraités par le pouvoir ukrainien. Tout ça n'est pas dénué de raison. Il y a effectivement des Ukrainiens qui se sont sentis au cours de la période soviétique à tort ou à raison. C'est pas le propos ici. On pourrait l'analyser, hein, parce que c'est aussi une question intéressante, mais qui se sont sentis privés d'un certain nombre de droits, etc., et qui maintenant veulent... Vous savez, ce sont des histoires qui ne finissent en réalité jamais, mais il n'en reste pas moins que cela a abouti à beaucoup de mauvais traitements de la population russophone et pro-russe à l'est de l'Ukraine. Et les Russes se sont sentis un devoir de venir au secours de ces gens-là. On peut le comprendre. Je ne dis pas que c'est acceptable. Je ne dis pas, d'ailleurs, je ne dis rien parce que c'est accessoirement pas mon problème. C'est l'affaire des Russes, c'est l'affaire des Ukrainiens, mais c'est en tout cas pas l'affaire des Anglo-Américains, ça c'est certain. C'est pas à eux de venir régler ces questions. Hein. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Et si les Anglo-Américains se mêlaient un tout petit peu moins de ce qui se passait en dehors de chez eux, eh bien, je pense que les choses iraient mieux et le sang coulerait beaucoup moins. Donc la question territoriale n'est pas pertinente. Alors, bien sûr, les Russes considèrent maintenant que le territoire conquis, ils ne reviendront pas en arrière. Ça, c'est certain. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu Maïdan en 2014, qui a été organisé par les États-Unis, tout le monde le sait, je veux dire, faut arrêter de se ficher du monde. Ah, mais non, c'est complotiste, etc. Non, non, ça a été organisé par les États-Unis en très grande partie. Les États-Unis l'ont admis, ils ont financé, etc. Donc, s'il n'y avait pas eu Maïdan en 2014, la Crimée serait ukrainienne aujourd'hui. D'accord. Donc, je veux dire, faut quand même aussi rester raisonnable. Et si l'accord qui avait été conclu en avril 2022 avait été signé et n'avait pas été saboté par les Anglais, il y aurait eu en tout cas des compromis possibles. Il y a toujours des compromis possibles. Il paraît. Je dis bien il paraît, parce qu'après tout, on n'a pas l'information. C'est Vladimir Poutine qui le dit, et moi, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas croire Vladimir Poutine. Alors moi, je fais attention, mais il paraît qu'en Anchorage, des compromis, y compris territoriaux, avaient été acceptés par les Russes. Bon, quels sont-ils ces compromis? On ne sait pas. Mais en tout cas, évidemment, on ne peut pas... il existe une certaine souplesse sur le plan territorial, mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'opinion russe n'accepterait pas la cession de territoires qui ont été obtenus au prix du sang. D'accord ? Ça, c'est quelque chose... Et les populations restées sur place, notamment au Donbass, ne l'accepteraient pas non plus. Parce que si aujourd'hui les Russes devaient céder du territoire, il faudrait voir aussi dans quelles conditions cela se ferait, parce que j'imagine que les Ukrainiens et leurs amis anglo-saxons ne manqueraient pas d'exercer un certain nombre de représailles. Donc ça, ce sont des choses que la population a tout lieu de craindre, et donc c'est pas simple. En tout cas, la Russie ne veut pas nous faire la guerre pour des questions de territoire, c'est une évidence. Ce qui est également pour moi une évidence, c'est que même si on ne parle pas de territoire, la Russie veut une zone d'influence. Elle veut une zone d'influence, mais elle la veut au même titre que les États-Unis veulent leur zone d'influence. Les États-Unis considèrent que le territoire, le continent américain, c'est chez eux. Eh bien, les Russes considèrent effectivement que l'espace post-soviétique doit s'exercer, et encore pas dans tout l'espace post-soviétique, mais dans cet espace doit s'exercer une influence à la fois politique, culturelle et économique, et ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Et si on ne l'entend pas et si on ne le comprend pas, eh bien, dans ce cas-là, ben, les choses sont très simples. Ça ne peut pas s'entendre non plus pour les États-Unis. Hein. Faut pas, il peut pas y avoir deux poids, deux mesures. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et je crois que c'est tout le message des Russes est là. Maintenant, est-ce que les Russes aujourd'hui sont prêts à un accord? Oui, à condition que cet accord soit raisonnable et sincère. Qu'est-ce que cet accord peut contenir? Ça, on ne le sait pas. Les pourparlers sont top secret. Moi, je pense qu'il y a un énorme volet financier dont on ne parle pas. Hein, je pense que les Américains ne sont pas là pour les Kouchner et Witkoff ne sont pas là pour parler uniquement de questions territoriales, de questions. Pour eux, c'est totalement superflu, même, je pense. Je pense qu'ils sont surtout en train de parler des parts de marché que BlackRock pourrait. En clair, ils sont en train de beaucoup parler business. Mais ça reste purement intuitif de ma part, bien entendu. Je ne suis pas à la table des négociations. Il n'en reste pas moins que aujourd'hui, on ne sait à peu près rien des négociations. Voilà, c'est la énième visite de Witkoff et Kouchner. Chaque fois, on nous raconte que ça s'est bien passé, mais au bout du compte, il n'y a pas de résultat. La seule chose tangible, c'est que chaque fois que Witkoff et Kouchner viennent à la table des négociations à Moscou, eh bien, la Russie a progressé militairement, et parce qu'il est bien évident que si les choses devaient se régler d'un point de vue militaire, eh bien, la Russie, évidemment, est avantagée. Hein, voilà, on va pas se. Les histoires des puces de machines à laver, etc., dont on nous a abreuvé LCI, vous savez, d'un côté, ils nous disent que les Russes sont très très dangereux, et puis d'un autre, ils nous disent qu'ils sont à l'âge de pierre. À un moment donné, il faut choisir. Voilà. Par conséquent, c'est quelque chose de. C'est quelque chose qu'il faut vraiment toujours garder à l'esprit. Mais il faut aussi garder à l'esprit, c'est que plus les négociations traîneront en longueur, plus les Russes seront exigeants. Bah parce que tout simplement, ils ne lâcheront pas ce qui a été. Ils ne concéderont pas ce qui a été conquis au prix du sang. L'opinion russe ne le comprendrait pas. L'opinion russe ne l'accepterait pas. L'opinion russe n'acceptera pas le retour de ses enfants dans des cercueils associés à un compromis trop à l'avantage des Occidentaux. Ça, les Russes ne l'accepteront pas. Par conséquent, et ça, Poutine le sait. Donc, et Poutine doit faire avec son opinion. Et j'en terminerai par l'élément suivant. Je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter. Ce serait bien que les Occidentaux considère qu'il vaut mieux négocier avec Poutine qu'avec ses successeurs. Parce que ses successeurs sont beaucoup moins modérés. Voilà. Par conséquent, puisque nous arrivons quasiment au bout de ce podcast, de cette émission, eh bien, non, je crois que raisonnablement, Poutine ne veut pas nous faire la guerre parce que les Russes n'aiment pas la guerre, ont la guerre en horreur. Les Russes ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant 35 ans pour être nos amis. Les Français, les francophones gardent un certain prestige en Russie, alors de moins en moins, hein, parce que ben là, ça commence à quand même devenir difficile. Mais vous serez toujours très bien accueillis en tant que francophone en Russie. Vous serez toujours apprécié. Maintenant, évidemment, il faudrait que nos dirigeants comprennent une chose, à mon avis, assez simple. Non, les Russes ne veulent pas faire la guerre. Par contre, les Russes ne veulent pas qu'on s'occupe de leurs affaires. Et ça, je crois que c'est une chose qu'il faudra vraiment garder à l'esprit à l'avenir si on veut améliorer nos relations avec ce pays. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci à tous ceux qui ont relayé, partagé, reposté Je vraiment merci beaucoup. Pour ceux qui écoutent ce podcast via YouTube, je vous demande de cliquer sur tous les trucs en bas. Vous pouvez aimer, vous pouvez également vous abonner. Ça ne vous coûte absolument rien. Hein. Vous appuyez sur la petite cloche comme ça, vous ne manquez rien. Vous avez les petites notifications, c'est très facile. Ça ne coûte rien et il paraît que ça peut me rapporter. Gros, l'important, c'est d'y croire. Et puis moi, eh bien, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau podcast. Pas le 15 septembre, malheureusement, le podcast du 15 ne pourra pas être enregistré. J'ai un emploi du temps un peu compliqué qui m'empêche d'enregistrer le podcast du 15, qui en général est une interview. Mais je vous rassure, nous enregistrerons d'autres podcasts d'actualité d'ici là. Et le 15 octobre, le podcast... Le grand podcast interview tout reviendra, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, nous restons en contact. N'hésitez pas à commenter également. Sachez que je lis absolument tous les commentaires. Quand il y a lieu, j'y réponds. Et je remercie tous ceux qui commentent fidèlement chaque semaine et qui ont souvent des choses très intéressantes à dire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite. Alors, à très bientôt. Salut! Thank you.